Bonjour à tous, bienvenue à votre Cinébrunch. Mon nom est Jim Boulay, en compagnie de Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour.
Et de François Genet.
Bonjour.
Salut.
J'en reviens pas, j'oublie jamais vos noms d'émission en émission.
Incroyable.
C'est phénoménal. Ouais. Hein?
Moi, je me dis à chaque épisode, je me dis, Colin, il va oublier mon nom.
Mais non,
ça ne se passe pas encore. On ne se voit pas souvent, en fait, on se voit juste le samedi matin pour
c'est
Cinébrunch.
C'est pour ça qu'on.
C'est quand même phénoménal.
Bon, je vous avoue, les noms sont écrits sur mon iPad.
Ah, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que tu as hésité à dire iPad, puis tu as vu que c'était marqué iPad sur ton iPad.
Exactement. Bienvenue à tous nos auditeurs, à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois ou pour un nombre inconnu de fois. Donc, Cinébrunch, pour ceux qui viennent de se joindre à nous pour la première fois et donc non pas pour les autres,
oui,
c'est votre magazine de cinéma hebdomadaire qui traite donc des actualités du cinéma, des critiques de films et de bien des sujets, débats et conversations fort intéressantes. Et c'est ce qu'on aura aujourd'hui, une conversation fort intéressante, parce que cette semaine, on va parler du film québécois Antigone.
Oui.
Film qui fait jaser un peu, hein? Peut-être moins que Joulix, parce qu'il y avait eu pas des scandales, mais des
oui-dire. Ça avait plus parlé dans le...
Ouais. Ça se passe plutôt mieux, ça se passe un peu mieux du côté d'Antigone, mais enfin, on va s'en parler tout à l'heure, en deuxième demi-heure, parce qu'on va s'attaquer à la bête.
En
critique commune. En critique commune, exact. Sinon, ben oui, mais François, tu as été voir un film de Noël. Tu baptises le Noël cette année.
Le genre de Noël cette année, oui, tout à fait, parce que j'avais pris congé de film la semaine passée. Donc là, et je reviens à la charge avec deux films. Alors, Antigone, qu'on a critiqué tantôt, et Noël dernier.
Oui. Alors, oui, Noël dernier, mais c'est pour ce Noël-ci.
C'est un petit peu compliqué, on va tout démêler ça tantôt, Jim.
Merci François. Et de mon côté, je vous parle du film Le Roi, donc film de King, film Netflix original qui
C'est pas un documentaire de récemment. Patrick Roy, ça?
Non, rien à voir, Le Roi.
Non, mais
on sait jamais.
On pose des questions. Hein.
Non, mais tu fais bien de...
Non, mais
c'est
on
toujours
peut garder
très
ça en
pertinent.
Note pour plus tard, oui.
Oui,
bon.
OK, parfait.
Bon, excellent. Et donc, mais avant d'entrer dans toutes ces beautés, dans tout ce beau Cinébrunch, on va parler, on va vous donner quelques nouvelles. Et j'ai envie de commencer cette semaine par François.
Mais mon doux, voyons, je m'y attendais pas.
Ah
j'étais
non?
pas prêt. Mon doux, écoute, le micro me tombe dans la face comme ça. Et voilà.
Alors,
oui, mais c'est que c'est des choses qui arrivent. Disney Plus, j'en ai parlé rapidement lors des derniers shows. En fait, on en a parlé souvent.
On en parle souvent.
On est excités,
c'est quand même gros.
Mais c'est gros parce que c'est comme si on voyait Netflix commencer. C'est quelque chose qui commence, puis on sait qu'il va déjà être gros.
T'sais. C'est ça.
C'est spécial. T'sais. On n'a pas vraiment eu le temps de voir la naissance de tout ça et que c'est déjà rendu gros parce que Disney Plus a eu, ils ont dit qu'ils ont eu 10 millions de personnes qui se sont inscrites la première journée.
Wow.
La première journée, c'est tout un box-office.
C'est quand même beaucoup.
C'est
ça.
Quand même beaucoup.
C'est quand même phénoménal.
C'est des chiffres que j'avais
dit comme une journée gratuite ou quelque chose comme ça.
Oui, non, je pense pas. Ben, je pense
7
qu'il y a
jours.
Il y a
7 jours gratuits.
Je pense que c'est ça exactement. Tu as des 7 jours gratuits que tu peux avoir. Il y a aussi des gens quand tu es avec des fournisseurs, que tu as des 1 an gratuit, des choses comme ça. Mais c'est quand même assez exceptionnel. On avait parlé qu'il y avait eu des problèmes techniques lors du dernier épisode, parce que justement, 10 millions de personnes qui arrivent en même temps, là, on s'entend...
On ne s'attend pas à ça nécessairement du côté de Disney.
Ça bloque un peu.
Oui. Ça ne l'ouvrait pas dans tous les pays aussi.
Oui, ben je pense pas que ça
c'est comme Canada, États-Unis,
exactement.
Fait
qu'imaginons
10 millions,
ça
c'est beaucoup.
Impressionnant. Et il y a des petits problèmes parce qu'il y a des gens qui se font pirater leur compte.
T'es pas sérieux.
Ben oui, écoute, je sais.
Déjà.
Ben déjà,
écoute. Il semble que quelqu'un t'en avait parlé de ça, Mina.
C'est qui? Sûrement François. Oui, ben moi je parle tout le temps, c'est ça qui arrive, vous me connaissez.
T'es connu pour ça, oui.
Oui, c'est sûrement pour ça. Alors, il y a eu des... Ils disent qu'il y a pas de brèches de sécurité, en fait, mais c'est qu'ils se font voler leur compte parce que, dans le fond, peut-être qu'ils ont eu leur mot de passe par un autre compte, puis là, ils ont été capables de prendre leur mot de passe qu'ils ont été capables de trouver, puis ils ont les mêmes mots de passe.
Les gens ont trouvé leur mot de passe de différentes façons,
peut-être pas par la plateforme.
Lien avec la plateforme.
Peut-être pas qu'il y a peut-être pas encore de lien avec la plateforme, mais il n'y a pas assez de mesures de sécurité. Il y a pas des fois, on a des deux façons de s'inscrire. Tu essaies de te loguer, puis là, il faut que tu ailles sur ton laptop, ton cellulaire, il faut que tu ailles à plein de place en même temps.
J'imagine qu'ils voulaient quelque chose de plus inclusif pour
commencer. C'est ça. Ils voulaient. Non, mais on prend les les moyens qu'on a. Hein.
Oui.
Mais
on
c'est
aime
pour ça,
ça des patrons occupés comme ça. Ben tu oui. vois qu'ils gèrent les choses importantes. Ils répondent au téléphone. Oui, c'est correct, vous pouvez vous
le on va vous le débloquer à l'instant.
Quel délire.
Mais c'est pour ça qu'un jour, je pense qu'ils voulaient quelque chose de plus simple pour que le plus de personnes possible s'inscrivent, mm-hmm. pour pas que des gens qui s'enfargent dans les fleurs du tapis, comme dirait l'autre, et qui disent « je vais pas m'inscrire là-dessus, c'est trop compliqué ». Mais en même temps, ça fait des choses comme ça. Il y a des gens qui perdent leur compte, qui s'est en vente sur le marché noir. Mm-hmm. Donc, pour 3$, tu peux avoir accès à des comptes de quelqu'un d'autre. C'est un peu absurde. Mm-hmm. Donc, on va voir est-ce que tout ça va être réglé.
Oui, peut-être que aussi, les gens, ils ont juste testé les mots de passe de base. Hein, mots de passe, par exemple. Je suis sûre que tu oui. testes les adresses e-mail avec mots de passe.
Non, mais je pense
qu'il sûrement,
doit y avoir un minimum de niveau de sécurité
pour
les mots de passe.
Oui, c'est ça. Ben, pour qu'il y en ait beaucoup comme ça aussi, il y a peut-être quelque chose d'autre qui s'est passé derrière.
Oui, c'est ça qui est intéressant. De voir, là. Il y a probablement quelque chose là, en lien
avec
ça.
Ont-ils fait un Desjardins d'eux-mêmes?
On ne saura peut-être jamais.
On ne saura peut-être jamais. Et il y a aussi une autre petite controverse qui s'est passée avec Disney Plus, parce que ça n'arrête pas les nouvelles sur Disney Plus, hein, parce que c'est ça, parce que sinon ça serait juste été Disney. Là, c'est Disney Plus, fait qu'il y a plus de nouvelles. Encore, c'est de plus de toutes. Hein.
Ah ben, plus de nez, en tout cas, 10.
Ah, ouais. Oh mon Dieu, je ne pensais pas qu'on allait aller là. Je pense que j'allais me recoucher.
Non, mais enchaîne, enchaîne.
Oui. Non, je pense qu'on devrait passer beaucoup de temps sur cette blague. Donc, ça a cassé beaucoup de personnes ici en studio et sûrement beaucoup de personnes aussi, beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent.
Il y a beaucoup qui ont hâte qu'on passe à autre chose aussi.
Oui, ça doit. Jim est une des personnes qui veut qu'on passe à d'autres choses.
Oui, tout à fait.
Alors, une des controverses, c'est que Disney a remis plusieurs vieux films, hein, évidemment.
Oui, ben oui, on en a parlé, on a énuméré plein.
On a énuméré plein de films. Mais évidemment, il y a certains de ces films-là qui, maintenant, il y a des trucs qu'on dit, ben c'est peut-être raciste un peu, c'est plus vraiment politically correct.
Oui, évidemment.
Quand on regarde ces vieux
films-là...
Des choses
qui datent des années 40, 50,
oui, c'est
60.
Ça. Ben, c'est
exactement,
ça.
Tu sais, déjà, bon, il y a eu Aladdin, La Toune qui s'était passée, que là, ils ont dit, on va peut-être la changer. On essaie tout le temps de dire, est-ce qu'on les change ou est-ce qu'on s'habitue à ce qu'on... en se disant c'était dans un contexte où c'était pas vrai, c'était un peu différent. Donc, ils ont mis des fois en disant « Attention, ce programme est présenté dans la façon qu'il a été créé à l'origine. »
Ah, c'est cool, okay. Ça!
Et
déjà,
il peut contenir des choses qui sont, qui sont datées et
qui sont
culturellement
choquantes.
Oui, qui sont maintenant choquantes. Donc, ils ont mis ça. Et là, pour essayer de se baquer, et ça fait un peu l'effet inverse. Il y a des gens « Ben, il y a beaucoup de warning avant les le contenu de Disney+. » Donc, mais je trouve que c'est intéressant quand même ce que ça amène comme question de dire justement les œuvres d'art, les films, la musique, tout ça, est-ce qu'on devrait le regarder d'un point de vue culturel en disant dans le temps, ça a été fait comme ça puis on ne bouge plus, ou on essaye tout le temps de les remettre à jour? Et je pense que c'est une question qui est intéressante à se poser.
C'est très intéressant. Oui. J'ai l'impression qu'on a déjà tenté de répondre à ça dans le passé. Minute, t'avais l'air d'avoir envie de dire quelque chose.
Oui, mais là, j'étais fascinée
bon,
parce
mais
que
ça tombe
disais...
bien. Non, mais c'est ça. Mais en fait, moi, je voudrais faire un bout de chemin là-dessus parce que ma nouvelle est assez cohérente avec ça. Mm-hmm. Tu viens de demander, François, est-ce qu'on doit juger les œuvres d'art ou les films comme ils sont ou par leur origine ou leur date?
Ouais.
Moi, j'enchaînerais ou par leur créateur et la popularité et les problèmes de son créateur.
Exactement.
Ce qui m'amène à ma première nouvelle.
Mais voyons donc,
parce
Jim,
que, en fait,
on est tellement connectés.
C'est ma nouvelle de la semaine passée, en fait,
oui,
que j'ai jamais pu
tu nous avais teasé à la fin.
Parce que
tu
avais
de...
pris trop de temps pour faire tes nouvelles, François.
Moi, voyons.
Bon,
et
bon,
donc,
bon.
En réalité, je voulais parler de Roman Polanski, qui, je pense qu'il faut dire Roman, en tout cas, qui était, en fait, encore sous les projecteurs, dans le sens où il y a de nouvelles accusations d'agression sexuelle qui sont apparues à son sujet. En fait, l'histoire, c'est autour de son film « L'affaire Dreyfus », en fait, sur l'affaire Dreyfus. Le film s'appelle « J'accuse », le titre qui fait référence, pour ceux qui l'ignorent, au fameux texte d'Émile Zola qui a changé l'histoire il y a à peu près quoi, 125, 150, pas mal d'années. Et le film est sorti le 13 novembre en Europe et il a été éclaboussé de scandales à cause, non pas du film lui-même, mais du
créateur.
Oui, c'est ça, exactement. Tellement que, en fait, Jean Dujardin, qui... il joue le rôle principal, celui du colonel Picard. Mais Dujardin avait annulé sa visite à une émission télévisée suite à ça.
Okay.
Donc déjà, premier élément qui s'est produit. Et Là, évidemment, le box-office est quand même assez bon en France. Est-ce que c'est parce qu'on en parle en bien ou en mal, je ne sais pas. Mais le box-office du film J'accuse est très bon. Et malgré ça, il y a déjà quelques salles de cinéma qui ont retiré leur film, donc le film de leur programmation. Et même mardi, ben, y a les élus de Bondy, qui est une banlieue de Paris, qui, j'allais dire, qui ont bondi. Mais non, en fait...
ça va bien, les jeux de mots.
Oui, mais ils ont attaché... Oui, ben, en tout cas, ils ont attaché leur soutien-gorge sur leur pupitre lors d'un conseil. Et qui devait décider de, bon, de toutes sortes de choses concernant les salles de cinéma de cette section-là. Et ben, en fait, c'est ça. Ils voulaient protester contre la présence du film de Polanski sur le territoire. Et ben, ça a fonctionné, en fait, parce que le film a été retiré d'autour de 6 salles juste de ce département-là. Suite à ce moment-là, on avait des pancartes, des soutiens-gorge un peu partout. Puis bon, la manifestation, finalement, qui proteste contre le fait qu'on puisse diffuser un film donc, qui a été réalisé par quelqu'un qui est accusé d'agression sexuelle. Et bon, on va voir ce qui va arriver avec tout ça. Le film, je ne sais pas s'il va être présenté au Québec ou quand il va l'être, parce qu'il y a toujours un petit délai, là, souvent, avec les films qui sortent en Europe et les films qui sortent ici. Qu'est-ce que ça va faire? J'en ai aucune idée. Mais ça nous amène définitivement à la même question. Oui, est-ce qu'on doit juger donc un film pour ce qu'il est, ou est-ce que c'est
ou ce qu'il a déjà été dans le passé? Ouais. Est-ce que tu sais, il y a tout ça aussi.
Est-ce que le créateur, est-ce qu'on doit, est-ce que c'est le fait d'encourager quelqu'un qui a commis des actes répréhensibles dans la vie que de boycotter son film, ou est-ce qu'on boycotte l'art lui-même? C'est des questions qui sont assez
c'est des grosses questions.
Ouais, c'est des grosses questions. Ouais. C'est sûr que quand c'est frais comme ça, on peut se dire, bon, ben, effectivement, ça paraît un peu mal d'aller encourager un artiste comme ça.
Parce que là, on le sait, ça vient de sortir là, il y a un côté de contexte, mais tu sais, on a
mais
vu ça
dans 100 ans, est-ce que ça va être la même chose? J'en ai aucune idée. Ouais. Et franchement, je pense pas me rendre là non plus. Donc, ça, c'était ma première nouvelle, puis j'en ai une autre, en fait, et je pense voyons, que François, tu vas vouloir embarquer là-dedans, puis Mélina meurt d'envie de dire sa nouvelle. Mais, en fait, je vais vous parler d'une grosse nouvelle pour Hollywood, parce que les États-Unis, et pour les États-Unis en général, parce que les États-Unis, le gouvernement a officiellement retiré, ben, en fait, est sur le point de retirer l'espèce de boycott qui empêchait les gros joueurs au niveau des studios cinématographiques depuis les années 40, qui les empêchait donc d'avoir le droit d'avoir des salles de cinéma. Bon, on se souvient qu'André-Jean nous avait parlé de l'histoire du cinéma américain. Il y avait les gros joueurs. Les gros joueurs, ben, c'est qui? C'est les studios Warner, Paramount, MGM et la Fox, la 20th Century Fox. Donc, ces joueurs-là ben, avaient été interdits de posséder des salles de cinéma depuis 1948 parce qu'à la fin des années 30, en fait, le gouvernement américain avait décidé d'amener l'affaire en justice pour empêcher ce monopole-là, cette espèce de contrôle où, mettons, Warner avait le contrôle total sur certaines productions, et après ça, le contrôle total sur la diffusion de ces œuvres. Alors, quelque chose qui peut paraître un peu étrange pour nous, mais il faut savoir qu'en Europe, c'est complètement l'inverse. On a beaucoup de cinémas, le cinéma Gaumont, les cinémas... je blanc de mémoire sur le deuxième nom.
mais tu peux avoir juste un exemple aussi.
Mais je pense qu'ils ont fusionné récemment Pathé. Donc, des cinémas qui sont aussi, en ce moment, je crois, des compagnies de distribution et de production cinématographique, mais qui, à l'origine, étaient des sociétés de production.
Est-ce que ça fait ça? Mais je ne sais pas si ta nouvelle est terminée, mais ça me fait réagir. Oui. Parce que ce que ça fait, ça, c'est que ça finit par tuer un peu le cinéma indépendant. Et moi, je suis une fière amoureuse du cinéma indépendant, des cinémas indépendants ici, comme on a la Maison du cinéma, qui est quand même le plus gros cinéma indépendant au Québec. Et grâce à ça, on a accès à une programmation...
Oui, parce qu'on s'entend que ça, c'est l'inverse d'indépendant. Là. C'est certain. Du moment où tu mets juste tes films à toi... Là,
mais c'est ça.
Là.
C'est ça.
Mais d'accord.
Il y avait aussi... Oui. Puis il y avait aussi l'effet, il y avait aussi un autre phénomène qui tend à enlever l'interdiction aussi, mais peut-être dans 2 ans que ça va arriver. Ils veulent tout le côté, le block booking, ce qu'ils appellent, c'est le côté de dire, si tu prends ce film-là, tu dois prendre tel autre film aussi avec, tu sais, ça vient en bloc.
De forcer les gens à mettre
d'autres films, de dire, c'est vrai que si c'est... tu prends ça, t'es obligé de prendre ces deux-là.
Ils vont réautoriser
ce genre de pratique-là.
Ça veut dire que c'est pas cool.
Ça veut dire que dans un... Peut-être on prend un exemple, peut-être que justement Walt Disney pourrait décider... parce que Disney aussi est un gros joueur aujourd'hui. Il n'était pas concerné par le boycott, mais c'est un gros joueur. il pourrait décider qu'il y a ses propres cinémas. Il y en a peut-être déjà même, en, je sais pas, sûrement qu'il y en a à Disneyland ou quelque chose comme ça.
Ouais, ouais.
Et il pourrait dire, OK, ben moi, je demande, si vous voulez tel film de Disney, vous êtes obligé de mettre tel film, puis j'oblige tant.
Mais c'est que là, on
Disney n'était pas bloqué par ce genre de mesures-là. Donc exact. Là...
Mais la portion...
La portion block booking, ça, je sais pas si était visé par ça, mais en tout cas, dans deux ans, peut-être que ça pourrait être enlevé. Donc,
on a encore le
temps de vérifier tout ça, ces informations-là. Mais ça reste, je pense, intéressant de voir l'évolution de ça, parce que qui veut avoir un cinéma encore de nos jours? Oui. Je veux dire, avec les plateformes de streaming, je pense pas que les gros joueurs comme qu'on a nommé tantôt vont dire nécessairement « je vais me construire un cinéma, puis
non,
je vais
moi
faire compétition à tout le monde ».
Je pense qu'ils vont en construire, mais...
Ouais.
Peut-être dans leur patelin ou dans créer quelque chose de
oui, quelque chose de thématique,
un événement
c'est
d'aller
ça.
Chez
c'est
Warner.
Ça. Exactement.
Ou ils vont relancer carrément un nouveau style de compagnie qui va être une.
Plus
leur...
agressif, peut-être.
Oui,
peut-être.
C'est ça, un cinéma. Peut-être qu'ils vont viser voir, justement comme on a ici les Guzzo qui prennent la place ou les Star City déjà qui existent. Je pense
peut-être
que ça
va avoir
avec
un cinéma
arcades.
Sur demande, un Disney Plus mais en salle.
Mais
oui,
ça
arrive en salle,
oui.
Tu vois,
il y a des enchères pour savoir quel.
Oui, oui, à place des petits jeux, à place des petits jeux des fois avant les films, ça serait décider le film que vous voulez voir. Puis là, tout le monde veut des gens
là,
dans salle.
On type.
Oui, plus tu mets d'argent, plus tu as de chance. Je pense qu'on est en train de créer quelque chose.
Je pense que visiblement, si des grands investisseurs nous
écoutent présentement,
on présente ça au Dragon dans quelques semaines.
Oui, c'est ça.
Alors voilà. Alors voilà, c'est tout pour moi, Mélina.
C'est ça, hein, mes nouvelles. Non, mais c'est que je suis encore prise dans la discussion parce que je suis un peu triste de ces nouvelles-là. Puis voilà, j'aime le cinéma indépendant et voilà.
Oui.
Pour en venir à mes nouvelles, en fait, petit clin d'œil à la visite de Gabrielle qui est venue nous parler il y a deux ou trois semaines du film Quest Seipan.
Oui.
Donc, le film a gagné dimanche, pas dernier, mais l'autre d'avant. Donc, il y a deux semaines, il a gagné le prix du meilleur film canadien au Festival international du film de Windsor. Et donc, le prix, c'était... Donc
c'est Windsor en Ontario, hein, pas pour ceux qui pensent que c'est sur le bord de la 55. Allez pas là en grand nombre.
Quand même,
pas pour ça, en tout cas.
Quand même, parce qu'ils ont quand même un peu de budget, parce que le film venait avec une bourse de 10 000 $ Et donc, la réalisatrice Myriam Véro a décidé de créer la bourse Quest Seipan, donc une bourse de 10 000 $ pour un projet de film de fiction d'un cinéaste autochtone du Québec. Donc, plus de détails sont à venir, mais voilà, petit clin d'œil à Gabrielle. Et je vous en ai parlé la semaine dernière, mais dimanche, demain, à la Maison du cinéma, leur façon de participer à la guignolée, en fait... Donc, dès 10h, vous pourrez voir gratuitement le visionnement de films en échange de denrées non périssables, donc qui vont être remises exactement à Moisson Estrie. Donc, il y a deux films présentés. Il y a Angry Birds 2 et Abominable, version française pour les deux. Les portes vont ouvrir à 9h30. Les films sont à 10h et arrivez définitivement tôt.
J'ai pris une photo l'année dernière. Si je la trouve, je vais essayer de la publier sur notre page Facebook. J'ai trouvé une photo... De la file d'attente l'année passée, je m'en allais tout simplement à l'épicerie, je marchais tranquillement. Quand j'ai vu cette file-là qui était complètement démesurée...
Mm-hmm. T'as dit, Mondo, est-ce que Céline Dion est en ville?
Ben, presque, hein?
Quasiment, hein?
Et c'est ça, arrivé quand même assez tôt, déjà que vous allez avoir à traîner du canage, la file peut être assez longue.
Oui, c'est une bonne cause aussi.
C'est une bonne cause, oui, on vous encourage à y aller.
C'est un événement.
Bon, ben merveilleux, merci Mélina!
Merci!
Et voici votre Cinébrunch! De retour à Cinébrunch, et c'est le moment où François nous parle du premier film de Noël qu'on critique de toute la saison.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Noël dernier, un film de Noël qui commence...
C'est comme à la semaine prochaine, ça.
Oui.
C'est mêlant.
Tout à fait. Oh, oui, c'est pas simple. Écoute, distribution assez intéressante. Je commence avec ça. Emily Clarke, qu'on a pu voir dans Games of Thrones, pour ceux qui écoutent Games of Thrones. Une trop grosse réaction là-dessus, brave.
Non, non, mais c'est qu'au début, je pensais que c'était un film québécois, fait qu'il y a eu comme double surprise.
Non, c'est Last Christmas en anglais, tout à fait. C'est la, oui.
Donc, j'ai doublement été surprise.
Oui, sinon, il y a Emma Thompson, Henry Golding, Michaela Yeo. Mon Dieu, j'écris
ton
très mal.
Extraordinaire.
Non, mais j'écris très mal, en fait.
Ah, c'est ton écriture?
Oui, c'est mon écriture.
Ah, mais c'est drôle, t'écris comme quelqu'un qui parle difficilement la langue.
Oui, c'est ça. Et voilà, alors, réalisateur Paul Feig. Et alors, je pense qu'on peut, dans le fond, résumer un petit peu rapidement ce qui se passe. Et après ça, on va l'écouter la bande-annonce parce que je pense que ça se comprend mieux avec la bande-annonce. Mm. Dans le fond, il y a Kate qui est là, qui travaille dans un magasin de Noël, d'où pourquoi on parle un petit peu de Noël dans ce film-là. Mm. Et qui rencontre Tom, qui semble être trop beau pour être vrai, et qui entre dans sa vie. Et dans cette ville de Londres qui s'illumine sous ses yeux. Alors, tout ça est un peu poétique.
C'est un film romantique.
Je vois le regard de Mina qui s'émerveille, alors que le mien, mes yeux plissaient de plus en plus.
Oui, tout à fait. Ça devenait très sombre dans tes yeux, Jim. Alors, sans plus tarder, on va aller écouter la bande-annonce et on va pour essayer de faire un petit peu de ménage dans tout ce que je viens de dire.
Écoute, OK? Ce n'est pas de ma faute. Rien n'est jamais de ta faute, n'est-ce pas, ma chère? Qu'est-ce que
tu... Tu gâches ta vie à travailler dans une boutique de Noël ridicule.
Tu disparais tout le temps et je retombe constamment sur toi, comme par hasard.
Mais ça n'a rien à voir avec le hasard.
Moi, j'ai rien compris de la bande-annonce, mais...
Oui, tout à fait, hein? Exactement. C'est un petit peu un feeling spécial. Oui, non, c'est assez incompréhensible ce qu'on a mis comme segment.
Je pense qu'on a décidé que... Non, mais on peut entendre que c'est clairement une comédie romantique ou quelque chose comme ça.
C'est une comédie romantique de Noël. Ben, le mot de Noël, oui, il y a le Noël présent... C'est pas trop présent non plus. Hein, quand
c'est
même.
Pas un film sur le Père Noël.
Ça date d'année passée.
Non, c'est ça. Non, Jim, essaye pas de mêler nos auditeurs plus que ça. Okay. Non, mais dans le fond, elle travaille dans une boutique de Noël, comme on a pu l'entendre. Donc oui, il y a le côté Noël, on a des décors de Noël, ça se passe à Noël, mais on met pas trop l'accent non plus sur « je déballe des cadeaux, j'ai la visite du Père Noël », comme c'est une comédie romantique, là, on n'est pas là-dedans.
Ouais, on n'est pas dans le côté plus enfant, là.
Non, exactement. C'est une comédie romantique. Premièrement, la première affaire que je veux dire, ça n'a pas trop rapport en fait, mais ça a rapport en même temps. Il y a beaucoup de musique de George Michael là-dedans. Pour vrai, on aurait voulu faire une biopic de George Michael, il y aurait eu moins de tonnes de George Michael.
Est-ce que c'était commandité?
Je sais pas. Moi, je voyais.
Peut-être qu'il y a un deal pas cher pour les rois.
Peut-être qu'il y a eu quelque chose là-dedans. Ok, c'était le Boxing Day, je sais pas, le Black Friday, puis ils ont vu que toutes les tonnes de George Michael étaient à rabais, puis ils ont toutes ramassées. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce film-là. Ils arrivent, ils disent la fille principale, elle aime George Michael. Elle dit ça au début. Ah, j'aime George Michael. Et après ça. Il y a des affiches de George Michael, il y a de la musique à la fin des crédits.
Mais on n'en parle pas plus que ça.
Ben, elle fait juste dire au début, ah, j'aime George Michael. Parce qu'à chaque fois, chaque tune, on entend des trucs de George Michael. Et à la fin, dans les crédits, c'est drôle. Ces musiques, c'est marqué George Michael, George Michael, George Michael, George Michael. Ben Michael. Oui. Je suis comme, mais c'est drôle.
Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre George Michael et les réalisateurs et producteurs de
Non, je pense pas.
Mais sinon, c'est peut-être un peu comme tu parlais tantôt, François, le bloc, peut-être qu'ils ont forcé à acheter toutes les chansons en bloc.
Peut-être.
C'est ça. Peut-être. C'est là que c'est rendu, oui, c'est ça.
Ben, en fait, c'est pour ça que je m'attendais peut-être à plus de musique de Noël, tu comprends? Que des musiques de George Michael dans un film qu'on nous vend de Noël parce qu'il y a Noël dans le titre.
Oui.
Donc ça, c'est un petit peu un côté que j'ai trouvé un petit peu étrange.
Certains ont trouvé ça bien, toi. Mais
Oui, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il sort tôt. Hein. Il est sorti le 8 novembre.
Mais oui. Ils refont une version avec la musique de Noël pour décembre.
C'est peut-être pour ça. On va tout enlever la partie de... Tous les posters de George Michael vont être enlevés dans la
ça
version
Frank Sinatra.
Oui, c'est ça. C'est peut-être ça qui se passe. Donc ça, c'est la première affaire que je voulais mentionner. Sinon, ce film-là, en fait, est assez prévisible à certains moments, autant dans les petits punchs que dans les plus gros punchs vers la fin du film, qui peuvent être assez prévisibles si tu y penses. On peut le deviner d'avance.
Oui, mais il allait dire dans les gros cocktails, mais oui, c'est ça.
Oui, mon doux, il y a des insides ici.
Non, c'est incroyable. Les petits punchs, les gros cocktails.
Oui, tout à fait. Oh là 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 là.
mon doux. Alors, c'est dur, hein, faire une critique avec nous.
C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pour ça que je prenais des semaines de films, en fait. Je pense que je viens de me rappeler. Et là. Mais donc c'est vraiment ça. En fait, c'est assez prévisible et j'ai l'impression que le gros punch de ça, final, et là, je viens encore de casser Milena avec le gros punch. Mais le gros punch de ça, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est comme quelque chose qu'ils ont fait. Ah, hey man, un genre de petit brainstorm à côté d'un cocktail, justement, qui ont dû faire. Hey man, ça serait drôle de faire un film de ça. Puis ils l'ont fait. Fait que le punch est comme un peu comme ah ben oui, ok, ça aurait pu être un punch de court métrage, puis on aurait pu ne pas passer 1h47 là-dessus.
Ça tient pas le film, c'est ce que je comprends là.
Ben c'est comme ok, mais genre c'est prévisible. Puis tu fais comme ok, ben voyons qu'ils vont là.
Mais il me semble que tous les films d'amour sont prévisibles un peu.
Ben ils finissent tous bien là d'habitude.
C'est ça, ils finissent tous ensemble.
C'est sûr que bon, mais il y a une twist différente qui est intéressante.
C'est pas l'amour impossible qui devient possible ou un truc comme ça.
Non, on va pas là. Fait qu'il y a une twist différente qui est intéressante, mais en même temps qui peut être prévisible, qu'on dit ben voyons qu'ils sont arrêtés là. Fait que je vais pas le dire. Je suis vraiment tenté de le dire, Jim, mais je vais le dire pas parce que je veux pas casser, parce que sinon Colin, il n'y a plus rien à aller voir dans ce film là. Il y a des petits moments qui sont bien faits. Non, mais il y a des petits moments qui sont très bien faits dans ce film-là. Il y a des moments drôles, il y a des moments cocasses. On est quand même divertis. C'est ça qui est dommage, parce qu'au final, il y a quand même des petits ratés, mais on passe un bon moment. C'est ça que je trouve bizarre dans ce film-là. C'est un film qui va passer l'après-midi.
Ça s'appelle un feel-good movie.
Ouais, c'est ça. Okay. Donc, il y a plein de petits ratés. Mais en général, si tu dis « Est-ce que tu as passé un bon moment? » Tu dis, ben ouais, j'ai passé un bon moment. Oui, il y a eu des ratés. Oui, il y a eu des affaires. Je dis, oh, c'est pas tant possible. C'est pas tant crédible, cette histoire-là.
C'est un peu comme Scorsese qui va voir Avengers, mettons.
Hé, mon dieu, oui. Ben, c'est un peu ça. Ouais. Donc, oui, il y a des ratés dans ce film-là. Mais en général, c'est un film quand même qu'on passe un bon moment. C'est un film romantique aussi, quand même. Mais pas trop. C'est ça. Oui, c'est un peu romantique, mais pas trop. Oui, c'est un peu Noël, mais pas trop.
Est-ce que tu vas t'en souvenir? Dans 6 mois, je te dis, François, c'est quoi ton top 3 des meilleurs feel-good movies?
Non,
est-ce que tu vas penser à ce film-là?
Mais juste parce que le punch est assez... Le punch est assez spécial. Tu sais, tu dis, je peux pas croire
qu'ils
font un film avec ce punch-là. Je peux pas croire qu'ils ont mis tout cet argent-là dans, genre... un flash de 3 secondes.
Un peu comme
ça. Puis faire comme ah, ça serait drôle, mais on le fera pas parce que comme on dépensera pas autant d'argent.
Il n'y a rien après le générique qui vient reprendre
non,
ça.
Non.
C'est un peu comme s'il avait mis de la bière dans le punch.
Oh, quand même. Mais c'est un bon flash. C'est un bon flash quand même de punch. C'est un bon flash comme punch final. Mais mon doux qu'il y a eu de l'investissement dans ce petit flash là de faire comme
mais tu te sens pas floué quand tu vas voir un film d'une heure et demie puis pour que le
non, parce qu'il y a des petits bons moments quand même. Il y a des petites blagues par-ci par-là qui font que tu dis « Ok, au final, c'est bien », mais tu dis « Mon doux que pour arriver à cette finalité-là, c'est un petit peu décevant. » Mais j'ai passé un beau moment quand même dilué. Donc, c'est pour ça que je donne un 7.5. C'est un beau petit moment. Il y a plein de beaux petits moments. Mais après ça, quand tu regardes ça en général, tu dis « Mon doux, pourquoi pour aller à ce point-là, final, on aurait pu y aller plus vite. On aurait pu y aller plus efficacement. »
Tu dis, on aurait pu faire un court-métrage.
Ben, c'est ça, tu sais. Ouais. Ça aurait peut-être été plus efficace, mais en même temps, il y a plein de beaux petits moments qui n'avaient pas tant rapport ou qu'on aurait pu enlever, mais qui étaient sympathiques quand même, puis qui marchaient bien. Puis que quand tu te laisses porter par la magie de Noël ou de pas Noël, ben,
ou de George Michael,
c'est ça que j'avais aussi, Jim, ben, écoute, ça marche quand même.
Donc, un film à voir en famille, en amoureux?
En amoureux. En famille, si t'es très proche de ta famille ou entre fans de George Michael.
Ah ben oui, pourquoi
tout à fait, parce que les gens qui attendent un biopic de George Michael, écoute, ben au moins il y a beaucoup de musique de George Michael là-dedans, donc allez vous faire plaisir les oreilles.
Ça veut dire que l'OST du film, ben c'est, en fait, c'est un album de George Michael.
ça doit être ça un peu.
Ok.
Ouais, je pense que ouais. Bon. Donc, non, c'est ça. Donc, tout à fait. Et elle chante aussi. Elle chante parce qu'elle veut devenir chanteuse.
Ah!
L'actrice.
Comme son idole.
Oui, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de chants là-dedans. Et,
elle chante du George Michael.
Elle chante.
Oh, les mystères resteront avec nous. Merci, François.
Oui, ben pas de trouble, Jim.
Donc, voilà, ben, dans quelques minutes, en fait, on va tous ensemble critiquer pour vous le film Antigone, film donc québécois. Et mais avant de se rendre à ce, hein, à ce plat de résistance, j'ai envie de dire, moi, je vais vous parler de, du film Le Roi, hein, The King.
Le seul et unique.
Le seul et unique roi Henri V. qui est disponible donc et uniquement disponible sur Netflix. Un drame historique australo-américain. Et oui, co-écrit et réalisé par David Mitchell et coproduit par Brad Pitt. J'ai trouvé ça intéressant de le spécifier. Co-produit pas mal d'affaires.
Mais Henri V, c'est quel...
Ah ben là, ben on est rendu là, quand même.
Excuse-moi, j'essayais de le replacer dans ma tête.
Oui, je sais que Jamie dit qu'il va faire une critique, mais quand même, c'est pas si court que ça.
Non, je pense que c'est deux ou trois générations avant Elisabeth, pour répondre à ta question, la première Elisabeth. Donc, on est dans ce coin-là, dans les années 1400. OK, alors, oui, donc, j'ai dit film historique.
Oui.
En fait, l'histoire du Moyen-Âge étant ce qu'elle est, c'est plutôt une adaptation des œuvres de Shakespeare sur Henri IV et Henri V. Et le film met en vedette Timothée Chalamet, qui aura le premier rôle, d'ailleurs, du film du nouveau Dune de Denis Villeneuve.
Je l'aime, lui. Ah, ouais. C'est lui qui avait joué dans Beautiful Boy avec Steve Carell, le film qui m'avait... qui est mon plus loin, dans mes plus forts à date que j'ai vu. Cet acteur-là, je le trouve vraiment... Il est jeune et je le trouve vraiment phénoménal.
Exact. Ben, le film est sur Netflix, si tu veux le regarder. Et donc, puis je veux dire, le film est vraiment sur ses épaules, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'autres personnages.
Mais ce qui est bon? Ah, je vais te laisser faire ta critique,
On se calme, Sinon, il n'y a pas que l'idole de Mélina dans ce film. Il y a donc aussi Joel Edgerton, Robert Pattinson, Sean Harris et Lily Rose Depp. Une distribution assez...
Quand même une grosse distribution.
Non, mais c'est la fille de Johnny Depp, Lily Rose Depp.
Oui, mais... C'est pas un gros rôle. Là.
Okay. Elle passe sur pas le
Le film, il porte sur trois personnes à peu près, puis elle fait pas partie de ces trois-là. Donc, c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que les dialogues les plus intéressants du film sont portés par des femmes, mais il y en a que deux vraiment dans le film.
Fait qu'il y a juste des dialogues intéressants.
Non, mais le reste, c'est des dialogues pas intéressants. Donc,
je pensais que c'était un film muet, en fait. Mais
C'est dur de faire notre critique ensemble. Hein. C'est très difficile. Je comprends ce que François vit maintenant.
À vous.
Donc, en fait, je dis que c'est une distribution masculine, évidemment. Il faut se mettre dans le contexte que c'est un film de guerre et d'époque. Donc, on est dans une ambiance très militaire. Je vous propose donc d'écouter, sans plus attendre, la bande-annonce.
Un roi n'a pas d'amis. Un roi n'est entouré que d'adversaires.
C'est la nature de la guerre d'être ainsi meurtrière et cruelle.
C'est ainsi que la paix est forgée.
Éprouvez-vous un sentiment d'accomplissement ?
Vous êtes venu ici pour moi !
Roi d'Angleterre.
Êtes-vous inquiet ?
Avec moi!
Ben voilà. Donc, bande-annonce haute en mouvement, comme vous l'aurez constaté.
Parce que c'est un film de guerre.
Oui, c'est ce qu'on appelle... En fait, c'est ce que les gens qui ont écrit les informations sur Wikipédia appellent un film historique. Et ça se passe, il y a une guerre dans l'histoire. Donc, voilà. C'est, en gros, dans le film Le Roi, on apprend à connaître le jeune Hal, un jeune prince ivrogne qui aime bien les femmes, mais qui ne s'intéresse pas vraiment à la politique de son père. Jusqu'à sa mort, en fait, à la mort de son père, où il se retrouve roi d'Angleterre suite à la mort de son frère, qui devait être l'héritier. Et il doit donc concilier ses valeurs pacifistes et son entourage belliqueux dans le rôle de roi d'Angleterre. Il va partir en guerre contre la France suite à des provocations de son homologue continental. Et c'est pour ça que je dis un film de guerre, parce qu'une bonne moitié du film se passe pendant une campagne en France. Donc, ça, c'est... ce qu'on pourrait considérer comme le synopsis du film. J'aime quand même beaucoup l'histoire, en général. Pas l'histoire du film, l'histoire...
L'histoire en général.
Je vous avoue, je connais pas tellement cette époque-là. Donc, l'époque des rois anglais du 15e siècle, c'est pas nécessairement dans ma zone de confort au niveau historique. Mais j'ai trouvé ça très réussi. Et c'est assez rare pour les films Netflix que je trouve qu'un film est très réussi. Ça fait deux ou trois fois là, dans les derniers mois. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais surtout, un film historique, ça demande beaucoup d'argent pour faire des films historiques
réussis. Oui, beaucoup de matériel. Quoi qu'ils sont habitués, parce qu'ils ont beaucoup de séries historiques. Qui sont, pas historiques, mais des séries, on pourrait dire historiques, là, avec des personnages, et des guerres, puis des choses comme ça. ils doivent avoir un rabais sur les costumes. Là,
oui,
quelque chose qui se passe.
Il y en a que c'est George Michael, d'autres, d'autres c'est les costumes.
Bon,
oui,
voilà.
C'est ça,
c'est... Et en réalité, bon, ça s'améliore, on est content. Maintenant, c'est pas non plus à se rouler à terre, là, comme film, on va se dire. C'est bien fait. Je dirais que c'est un peu comme un bon épisode d'une bonne série. Donc, c'est comme ça que je le vois, Game of Thrones ou des choses comme ça. Scénario pas mauvais, des personnages intéressants malgré des dialogues très très pauvres, à part peut-être quelques femmes qui s'expriment bien. Sinon, ben, c'est-à-dire, je dis ça, c'est pas qu'ils s'expriment mal hein, quand je dis les dialogues pauvres, parce qu'ils expriment plutôt bien même le roi. Un peu trop bien même pour son statut, si on veut, ou le fait qu'il supposément était ivrogne toute sa jeunesse. Il a pas l'air de ça. Maintenant, il suffit de couper les cheveux puis c'est une transformation là, globale. Il s'exprime bien, sauf que les dialogues entre les personnages, quand c'est pas un discours, quand c'est pas un monologue, c'est faible. Donc, c'est ce que je voulais dire.
C'est vraiment au niveau du scénario que c'est faible.
Ouais, c'est mal un peu...
Les dialogues sont mal scénarisés.
C'est faible. Disons que c'est faible. Ça. Maintenant... j'ai eu du fun à voir ça et c'est immersif. Maintenant, à propos des faits historiques. Alors, dans le film, c'est une totale catastrophe. Et laissez-moi passer un certain temps à vous parler de la catastrophe historique. Vous allez voir, c'est assez phénoménal. Pour vrai, les historiens n'aimeront pas ce film-là parce que, premièrement, on dépeint un Henri V très pacifiste et progressiste, alors qu'en fait, il aurait été cruel et belliqueux. Ensuite, la guerre contre la France n'est pas non plus une réponse à une provocation, mais bien une volonté de continuer le désir de conquête d'Henri IV dans la vraie vie. Le siège de Rouen, qui dure quelques jours dans le film, dure en fait 6 mois dans la réalité. Et si vous en voulez d'autres, j'en ai d'autres. Alors, sur Wikipédia, on peut lire « Henri V n'a jamais mené une vie de débauche dans sa jeunesse. Henri V n'a jamais défié ni tué en duel Henry Hotspur Percy. Henri V n'a jamais renoncé à ses responsabilités de prince de Galles, héritier de la couronne, et ce n'est pas la mort de son frère qui l'a poussé à accepter la couronne. Pire, puis en plus, ce dernier n'est pas mort au pays de Galles, mais en France, et 8 ans après le couronnement d'Henri V. L'intervention dans le film du dauphin de France, Louis de Guyenne, est fantaisiste. La version caricaturale du personnage interprété par Robert Pattinson, qui est quand même très bien comme acteur, le présente comme un personnage grossier, arrogant, idiot, cruel et brutal. Cette vision est loin de la réalité. Louis de Guyenne, dauphin de France, est mort à 18 ans, 2 mois, soit deux, en fait, il est mort à 18 ans, 2 mois après la bataille d'Azincourt, était un jeune homme pieux et effacé, à la santé fragile. La bataille d'Azincourt n'a pas eu lieu dans un endroit vallonné et verdoyant, comme le montre le film, mais sur des champs en jachère. Et surtout, c'est un moment crucial dans le film où on révèle que la stratégie vient du fait que les Français vont devoir sont en avantage numérique et en avantage de terrain parce qu'ils sont en haut et les Anglais en bas, mais qu'il va y avoir de la boue et que c'est de cette façon-là qu'ils vont réussir à quand même gagner la guerre. Ouais. Alors, en fait, c'est les Anglais qui étaient en hauteur et non les Français, comme le suggère le film. Donc, tous les gens sautent, là. Tout ce qui est historique dans ce film-là n'est pas vrai. Ce film-là n'est pas du tout un film historique.
Mais dans le fond, il faudrait vraiment juste changer les noms par d'autres. Si on avait appelé ça
rendu
Bob
là, c'est
premier,
ça. La seule chose qui est historique là-dedans, c'est les noms des rois. Ça s'arrête tout à fait là. Je comprends qu'on n'a peut-être pas un historique très clair de cette époque-là. Le Moyen-Âge est quand même assez obscur.
Mais
il y a quand même des choses.
C'est juste en googlant sur Wikipédia, tu es capable de trouver ce genre de trucs-là.
On a déjà eu cette discussion-là parce qu'après ça, les gens regardent les films et
pensent que ça, c'est la vérité.
C'est la vérité, oui. Puis il y a une déformation de l'histoire. C'est un problème, c'est ça.
C'est un problème majeur.
C'est parfois fait de façon vraiment maladroite.
Oui.
Et des fois, c'est fait réellement pour que les gens pensent que c'est ça qui s'est passé. Peut-être pas dans ce cas-là, mais des fois, dans des films qui déforment la réalité parce qu'ils veulent avoir l'air de que par exemple les États-Unis veulent avoir l'air
plus patriotique,
d'être plus
patriotique. On tombe dans la même logique de contrôle de l'image, mais de la propagande.
Le cinéma a tout le temps connu ça, effectivement.
Oui, la différence c'est que là on parle d'un enjeu historique qui date suffisamment pour pas avoir réellement un impact. Mais moi je vais vous dire un truc, moi je m'insurge contre le fait que personne ne s'insurge contre ça, ou peu de personnes s'insurgent contre ça. À ma connaissance, il n'y a rien eu. En tout cas, je n'ai pas fouillé vraiment pour ça. Mais
parce que
on n'entend jamais de gens être fâchés de ces changements-là si ça va dans le sens de nos valeurs actuelles. Alors que moi, c'est l'inverse. Puis je comprends qu'il y a des gens qui manifestent ou qui s'insurgent contre ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Moi, j'ai envie de dire, il faut aussi s'insurger contre l'appropriation
historique.
Parce que ça peut-être pas d'impact aujourd'hui pour nous, Mais si les seules références qu'on a qui subsistent dans le temps de Louis V, Henri V, c'est ce film-là, ben on vient de déformer le cours de l'histoire complètement. Et puis, un jour, quelqu'un va citer ça dans fait. Quelque chose.
Puis on sait jamais ce genre de film-là, comment ils vont être présentés. On sait jamais si un professeur d'histoire va présenter ça dans un de ses cours ou on le sait pas.
À mon avis, non.
Non, mais on le sait pas. Non, mais on le sait pas. Si quelqu'un
je pense
qu'il
n'y a pas un professeur d'histoire qui va oser présenter ça.
Si quelqu'un n'a pas googlé avant... Puis il connaissait pas nécessairement cette période-là, un remplaçant qui doit arriver présenter
dire,
un film.
Oui, c'est ce que j'allais dire, un suppléant.
Non, un suppléant
genre,
qui doit mettre un
bon,
film.
Bon, en admettant qu'un suppléant mal informé décide de projeter
non,
ça.
Non, mais on le sait jamais, ou un parent, ou peu importe, quelqu'un qui est pas nécessairement, qui le sait pas, puis qui montre ça à un enfant en disant « c'est ça qui s'est passé ». Ben là, quand t'es enfant, tu regardes ça, ben tu sais, je veux dire, il y a tout plein de
tout
dommages qui peut arriver en pensant que ça, c'est la réalité.
Oh, c'est ça.
Pas juste les enfants, les adultes, comme toi, Jim, si tu t'étais pas renseigné après.
Oui, parce que moi, j'avoue que
en le regardant, t'as dû
puis
dire,
Netflix,
c'est ça.
Je suis toujours tenté pendant le film de regarder sur mon téléphone, mais je me retiens.
Ouais.
Parce que je me dis, ah oui, non, je veux voir c'est quoi qui s'est passé dans cette bataille-là.
Ouais, ouais, ouais.
Puis, heureusement, je ne l'ai pas fait parce que ça m'aurait vraiment tué le film.
Ouais, ouais.
La vérité, c'est qu'au bout du compte, si je n'avais pas lu le texte, je n'aurais jamais su ça.
Exactement.
Parce
puis
que
c'est
ça
un danger,
semble vrai.
Pour tout le monde qui écoute ce film-là,
exact.
De penser que c'est vrai et d'après ça, d'en parler dans une émission de radio
et
ou dans une conversation.
Oui, et maintenant, je vais faire preuve d'humilité dans ce sujet-là. Et je ne vais pas teinter ma note de ça.
Oh.
Au même titre que je ne crois pas qu'on doive teinter notre note pour des films qui nous déplaisent, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le film.
Ouais.
Donc, pour cette raison-là, je vais faire fi de ça. Je vais vous dire que ce film-là, outre les aspects historiques complètement faux, est agréable à voir. Les armures sont vraiment bien faites. On se sent à cette époque-là. J'aime la dynamique médiévale dans le film. Tout ça mis ensemble, ça donne 7,5 sur 10. Mmh.
Quand même.
Ce qui n'est pas une mauvaise note.
Non.
Il y a quand même des problèmes du scénario, des
affaires, ouais,
les dialogues sont pas bons. Mais sinon, le film en lui-même est quand même bon. Il y a des affaires qui vont un peu n'importe où. Mais oublie l'aspect historique parce que c'est du pipeau. Mais sinon, c'est franchement un film sympathique à voir. Puis c'est sur Netflix, ça pouvait même l'écouter en deux ou trois fois. C'est quand même un 2h20, là. Fait que 2h12, 2h20, je sais plus trop, là. Donc, c'est ça. C'est un film qu'on peut écouter en deux parties.
Ouais,
dans le confort de son foyer.
Avec une pause pipi, comme on dirait.
Ben,
une pause popcorn.
Oui, oui. Popcorn, j'aime mieux popcorn.
Ah, c'est
pour
chacun,
remplir
c'est...
le bol, tu sais, parce qu'on est rendu au milieu du film.
Oui, tout à fait.
Comment c'est vide.
Oui.
Donc, ben voilà, c'est tout pour ma critique. Le moment tant attendu hein, de déguster notre plat de résistance.
Oui.
C'est maintenant le moment de parler du film Antigone, film qu'on a tous vu.
Oui,
hein?
Tout à fait.
Moi, j'ai eu la chance de le voir avec Mélina. François, tu l'as vu seul ou en
oui,
famille?
Oui, seul. Non, non, seul. On était quand même un beau 4 personnes dans la salle.
Ah.
Quand même.
Ah.
Ah. Nous,
alors,
on était vraiment beaucoup, en fait.
Oui,
pour
oui.
Vrai?
Ah, oui.
Oui.
Je vais toujours voir tes films le lundi soir à 9h30, c'est sûr que...
Non. C'était 7h, c'était 7h. Je sais pas, des heures si bizarres, Jim.
Bon, d'accord. Donc, film Antigone, film québécois réalisé par?
Par
Sophie Desraspes.
Oui, tout à fait. C'est bien dit, ça.
Non, mais ça paraît qu'on est prêt. Alors, vas-y,
oui.
François. Non, mais c'est parce que c'était mon cue, là.
Pour lancer mon dos. OK, je pensais pas que c'est moi qui présentais ce film-là. Bon, alors, comme d'habitude, alors, réalisation, on l'a nommé tantôt. Distribution, Naima Richie Sahabi, Nour Belkiria, Rachida Ousada. On se demande pourquoi c'est moi qui lis tout ça.
Non, mais j'aurais aimé que tu l'écrives sur ton papier, ça aurait été plus lisible.
Oui, c'est vrai, hein? Antoine Desrochers, Rawad Elzane et Paul Doucet, entre autres, hein, pour ne nommer que ceux-là, évidemment. Sinon, on ne va pas passer la journée à nommer tous les gens, à aller écouter les crédits du film. Alors, dans le fond, écoute, qu'est-ce que ce film?
Hein? Mais qu'est-ce qu'Antigone, en fait? Parce
qu'est-ce qu'Antigone?
On connaît le nom. Hein? On connaît le nom.
Oui, on connaît le nom. Hein? Un nom qui résonne, qui a des cloches dans notre tête hein, tout le temps. Parce que c'est une grande... Ben, Antigone, c'est une grande histoire qu'on a connue dans le temps grec, hein, évidemment.
Oui.
Oui.
Mais encore, François, mais encore. Rentre dans les détails. Tu as l'air très, très au courant du sujet.
Ben, Antigone, tout le monde connaît l'histoire
de
la mythologie grecque,
tout à fait. Oui. Et qui a été repris dans une pièce de théâtre.
Oui, tout à fait.
Dans les années, je ne sais plus quoi.
Ouais.
Et
ça se base sur la reprise théâtrale qui a été faite, qui se base elle-même sur l'histoire de la mythologie grecque.
Voilà.
C'est ça. Donc, et ça parle un peu du choix entre la famille et la société.
Oui.
Un peu.
Oui. En fait, l'histoire, pour avoir relu rapidement le vrai synopsis de l'histoire originale d'Antigone, c'est exactement ça le film. Mm-hmm. C'est juste que c'est appliqué à la société réalité actuelle québécoise. Ouais, donc, c'est ça qui est spécial. Donc, on a un Antigone au Québec et ils ont gardé les noms des personnages. Mm-hmm. Ça, c'est quand même intéressant.
Ouais,
mais je vais te laisser finir ton synopsis.
Mais non, mais tout à fait. Mais le synopsis est excessivement long, donc on ne rentrera pas dans les détails. Mais Antigone, c'est une jeune Québécoise issue de l'immigration qui rend visite à son frère incarcéré à la suite d'une altercation avec des policiers lors de laquelle leur grand frère s'est fait tuer. Donc, Antigone change d'identité avec lui et ainsi
pour l'aider à
s'échapper. Et ainsi, donc, va arriver tout plein de questions morales, éthiques et de société qui ressortent de ça.
Absolument, et c'est ce qui est très intéressant. Écoutons donc la bande-annonce de ce film.
Oui.
On est partis au Canada, mais juste avec ma grand-mère, mes deux frères, puis ma soeur.
Puis cette année, nous avons mis paix et prospérité. Baba, maman, protégez-nous.
Et gardez-nous unis.
Est-ce que vous êtes bien consciente des charges portées contre vous et des conséquences qu'elles auront sur la peine qui pourrait vous être donnée?
Oui, je suis solidaire dans ma famille.
C'est un partenariat, quelque chose de pas mal plus gros que tu penses, ma petite fille.
Je peux pas l'enfermer de même, voyons donc, il s'est fait tirer par la police. Elle a jamais rien fait, elle est malade de corps.
J'ai appris la loi, mais je recommencerai demain. Mon cœur me dit d'aider mon frère.
Mon cœur me dit d'aider mon frère, et c'est une phrase, disons, assez clé dans ce film.
Oui, tout à fait.
Donc oui, le film Antigone, donc, toujours à l'affiche, je pense pour un certain temps, va l'être.
Sûrement.
Définitivement, surtout que le film, il a gagné le prix du meilleur film canadien au TIFF, là, au Festival de films de Toronto.
Et c'est sans doute un film qui sera oscarisé, donc au moins en nomination.
Présenté, je crois, peut-être.
Peut-être présenté aussi.
Pour le Canada. Non, mais je veux dire la soumission.
Effectivement.
C'est des phrases très claires, présentement. Ouais,
non, mais je veux dire, les pays soumettent des films pour les Oscars. Donc peut-être le film que le Canada va envoyer pour le représenter, on ne sait pas.
Ça se pourrait être assez intéressant. Bon, comment on procède? Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire dans ce film-là.
C'est un très grand film, oui.
Moi, j'ai envie de commencer par comment vous vous êtes senti en sortant de la salle de cinéma?
c'était... T'es dans les réflexions. Je pense que t'es dans ta tête. Je pense que ça tu vois dans des places dans ta tête. T'es en grosse réflexion. Je pense que ça amène beaucoup de réflexions sur nos rapports... autant la famille, la société, ce qui est les règles à suivre, à ne pas suivre. Est-ce qu'une règle, on doit la suivre, on ne doit pas la suivre? Pourquoi on fait ça? Comment on vit notre vie? Je pense que ça amène tout plein de questions. Je pense qu'on n'est pas dans les questionnements. Je ne sais pas si vous étiez à la même place que moi.
Oui, Mélina, toi?
Oui, je pense que définitivement, je vais avec toi, c'est un film qui fait réfléchir. Parce que je pense que je suis convaincue, en fait, que c'est un film qui ne peut pas laisser quelqu'un intouché par ça, insensible. C'est un film définitivement qui marque les gens, qui provoque une réaction, donc qui a vraiment un effet sur les gens. Je pense que... En tout cas, j'ai de la misère à imaginer quelqu'un qui va voir ce film-là et qui en ressort pas justement en questionnement, en étant là quelque part dans sa tête.
Positivement ou négativement, c'est sûr qu'il y a un impact.
Ça
me rappelle un peu le film Monsieur Lazare qui avait soulevé un certain nombre de questions à une certaine époque où, évidemment, on avait un personnage identifié comme un héros, si on veut, d'aller à l'encontre du système, alors qu'en réalité, il brisait des règles, des lois. Ouais. Et donc, de l'encourager comme ça, c'était comme une mauvaise chose. Mais d'un autre côté, on s'identifie à ce personnage-là parce qu'on sait que ses intentions sont nobles. Donc, cette dynamique-là est assez près de ce film-là. Moi, j'ai envie de dire, moi, quand je suis sorti de là, c'était justement des remises en question, grande réflexion profonde sur l'absolu et le relatif.
Oui.
Quand est-ce que la structure devient trop lourde pour s'adapter? Et il ne faut pas oublier pourquoi on a créé la structure à l'origine.
Oui. Ouais, quand on oublie la structure, la
on l'a créée pour nous protéger, puis qu'au bout du compte, elle se trouve à faire l'inverse.
Ouais.
Y a-t-il une issue à ça? À mon avis, non. Peut-être que je suis un peu pessimiste là-dessus.
Je pense que... Je veux faire du pouce là-dessus parce que je pense que ce qui amène autant de réflexion derrière ça, c'est en fait le fait que ce soit une pièce de Sophocle, de l'Antiquité, des textes qui étaient faits à la base pour provoquer ces réflexions-là.
Puis c'est une réflexion que je pense qu'on n'a jamais... Tu sais, je veux dire, c'est effectivement quelque chose qui date et on a encore ces réflexions-là.
Oui, et à cette époque-là, maintenant, on réfléchissait beaucoup sur ces choses-là, sur des enjeux qui étaient plus grands que soi, qui étaient des... On opposait
concept de sacrifice, le concept
on réfléchissait beaucoup sur la philosophie, et ce que je trouve intéressant, c'est que le fait qu'on aille chercher ça et qu'on l'applique, on le rende parfaitement dans notre société, on réussit à rendre ça tellement crédible.
Et c'est peut-être aussi parce que la société n'a pas tant évolué, même si elle a évolué.
C'est ça aussi, ça change, c'est pareil.
Parce que les questions philosophiques restent les mêmes qu'à l'époque.
Et les choses qui ne marchaient pas dans le temps ne marchent toujours pas plus maintenant. C'est ça. Et c'est ça que je pense que c'est une des affaires que j'ai le plus réalisées en sortant de là aussi. C'est le côté de dire... Ben, un peu comme tu as dit, Jim, est-ce qu'on va être capable de changer quelque chose? Ben, en même temps, on s'est posé les mêmes questions dans l'Antiquité grecque et il n'y a toujours pas eu de changement.
Mais au niveau plus cinématographique, en termes d'analyse scénaristique, moi, ce qui m'a frappé, c'est justement cette habileté-là avec laquelle on réussit à créer un attachement à des protagonistes qui pourraient être des antagonistes. Donc, cette espèce de facilité-là à nous mettre dans un dilemme entre nos valeurs sociales, nos valeurs humaines. C'est spécial.
Oui, effectivement, c'est spécial parce que c'est extrêmement bien monté pour ça.
Oui.
Par exemple, moi, je veux juste revenir sur les clips qu'on voit durant le film, qui sont les clips montés par Aymon, le montage qu'il fait lui. Du moins, c'est ce que j'en ai compris quand je l'ai regardé.
Les espèces de pots pourris de montage faits avec des téléphones cellulaires.
Oui, c'est ça.
Puis du gros rap. Je pense pas que c'est tant fait par Aymon que fait par la communauté, en fait. Là. Je pense que c'est plus ce qui ressortirait.
Je pense qu'effectivement, ça pourrait être plus ça.
Parce que je pense qu'il y avait des messages là-dedans qui étaient un petit peu aussi contre Antigone. Puis ce qui
mais en fait,
pas,
il y avait comment je l'ai lu, les commentaires qui sont l'équivalent des commentaires YouTube. Reste qu'avec cet outil-là... c'est comme si on avait un peu un film dans un film, dans le sens que ça change ta perception sur ce que tu es en train de vivre définitivement.
Je trouve ça
parce qu'on
vraiment
s'en
intéressant.
Ouais, on a des montages
parce
un petit peu à la YouTube.
J'ai
style,
détesté ça, mais comme vraiment détesté ça, ces montages-là. J'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé le choix de la musique, déjà, ça a pas aidé, mais j'ai trouvé ça agressif, agressant, et j'ai trouvé que personnellement, ça me coupait du film où j'étais. J'aurais aimé que le film se tienne tout seul. J'aurais aimé qu'il rajoute pas ces espèces d'interludes-là, ces espèces d'intermissions-là où on fait passer du temps, mais en même temps, on fait pas nécessairement du temps, mais on fait passer ce qui s'est passé à l'extérieur de ce qu'on est en train de voir.
Ouais.
Je comprends l'idée, je comprends le concept. C'est pas mauvais, mais moi, j'ai pas aimé comment ça a été fait.
Pour vraiment actualiser vraiment beaucoup la chose, ils ont voulu dire c'est l'équivalent de ce qu'on aurait trouvé sur YouTube comme vidéo, puis pour mais essayer de mettre les réseaux sociaux là-dedans. Je pense que leur façon d'intégrer ça. Effectivement, la première fois que c'est arrivé, ça m'a un petit peu gossé. Ça revient quelques fois dans le film.
Ouais.
La deuxième fois, j'ai fait « OK, ouais, je suis correct avec ça. » Puis après, j'ai fait « Ouais, mais là, c'est peut-être trop. » peut-être qu'il y en a peut-être trop.
J'aurais mis une fois au milieu du film.
Juste pour faire comme « OK, c'est créatif, c'est différent, c'est intéressant. »
J'ai l'impression qu'ils voulaient pas avoir l'air d'avoir mis ça random.
Je comprends ce que vous dites. Moi, c'est intéressant parce que j'ai vraiment l'opinion inverse dans le sens que... Ouais. Mais moi, je me suis peut-être inventé une histoire par rapport à ça dans le sens que pour moi, ces moments-là dans le film... J'ai toujours été convaincue que c'était des montages qu'Aymon faisait.
Mais en même temps, ça montre la gang. Ça montre la gang de voyous. Ça met l'accent sur souvent la gang de voyous, puis le côté que...
C'est ça les met pas en valeur.
Pas juste dans les commentaires, mais dans le visuel, ça met même des fois Antigone, puis ça met dans de l'eau chaude, entre guillemets, puis ça met l'accent sur le fait que toute sa famille était dans des groupes, des gangs de pas fins, là, tu sais. Je veux dire,
mais c'est pas ça mon point. Moi, je l'ai pas vécu comme ça, mais je pense que le fait, pour moi, de penser... que ça, c'est un peu des montages qu'Aymon a fait, peu importe que ce soit vrai ou pas. Je pense que ça m'a permis d'apprécier ces moments-là dans le film, dans le sens que pour moi, ça venait donner encore plus de profondeur au film, puis ça rajoutait une dimension de plus Parce ouais. que voyant ça comme ça, c'est comme
toi, tu
si...
l'avais comme intégré dans ton film.
Je l'avais intégré, ouais, je puis je
ce
le voyais
pas mon cas, mais...
comme la perception d'un personnage. Donc pour moi, ça, c'était des informations supplémentaires qui venaient remplir encore ouais. plus la profondeur du film.
Ben, je comprends le point. Maintenant, on n'a plus beaucoup de temps. En fait, moi, ce que je veux, avant de vous demander vos notes, je... en gros, là, les points forts du film, les points faibles.
Je pense que l'histoire, c'est fort, justement. L'histoire mm-hmm. t'a fait tout ce temps-là. Fait que l'histoire est, ouais. est tellement plus fort que des fois les petites lacunes que ce film-là peut avoir. Donc, même si une couple de scènes, une couple de moments, j'ai décroché pour X nombre de raisons. En général, c'est bien joué. Mm-hmm. Mais il y a eu des petits moments où que peut-être j'ai décroché sur le jeu de l'acteur ou les ou d'acting ou des choses comme ça. Mais en général, l'histoire est tellement fort que ça te ramasse quand même. Même ouais. malgré les petits défauts que ce film-là peut mm-hmm. avoir.
Je comprends, je comprends. Je suis tout à fait d'accord aussi. Mm-hmm. Moi aussi, des incohérences au niveau d'un petit peu du dialogue, du scénario. J'ai trouvé, moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est les dialogues. Le, encore là, les acteurs de soutien, ouais. je les trouvais pas très bons. En général, je trouvais que les dialogues étaient pas bons. Des dialogues un peu trop pompeux, la juge, c'est, ouais. c'est pas crédible. On parle encore dans une espèce de Québécois beaucoup trop propre pour être la réalité, alors que les protagonistes, eux, parlent dans un langage normal.
Oui, il y a un clash des fois.
Pourquoi ouais. faire ça? Moi, je comprends pas pourquoi on fait ça. Mais bon, ce sera pas la première fois et ce sera pas la dernière fois. Mm-hmm. Le mot de la fin et votre note?
Moi, je donne un 8.5. Écoute, c'est un film à voir, intéressant, malgré les lacunes.
Oui, mm-hmm. c'est ça.
Mm-hmm. Définitivement, moi, je donne un 9 sur 10. C'est... comme mot de la fin, je dirais que c'est un film extrêmement fort qui est plus grand qu'un film.
Oui, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Très bon film aussi. Moi, j'ai donné un 8.5 aussi. Il y a des trucs qui m'ont achalé un peu, mais je comprends la volonté de la réalisatrice. Donc, voilà. Film Antigone à voir au cinéma.
Oui.
Franchement, c'est troublant, mais très bien fait, très beau.
Tout à fait.
On n'a pas parlé des acteurs, là, mais l'actrice est phénoménale.
Mmh. Oui, phénoménale. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment une performance à voir.
Ouais, ouais. Merci beaucoup à tous. C'est déjà tout pour Cinébrunch cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 11h, rediffusion, mardi midi. Sinon, sur notre site web, cinébrunch.com. À la semaine prochaine, tout le monde.
Bonne semaine.
Bonne semaine.